prendre un moment dans la parole de Dieu, et déjà de tourner dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, il y a quelques mois, et pendant que vous tournez, eh bien, j'aimerais vous partager deux choses. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un couple qui m'a partagé avoir perdu leur fille de 15 ans. Et au cours de la conversation, la mère m'a dit que sa fille lui manquait tellement qu'elle n'était pas sûre de pouvoir survivre à cette épreuve. Et il n'y a pas si longtemps, eh bien, un homme d'affaires m'a téléphoné en me disant qu'il voulait, qu'il pensait se suicider. Et après l'avoir entendu, je lui ai demandé s'il me donnait la permission de pouvoir prier pour lui. Et au cours de la conversation, il m'avait dit qu'il n'était pas certain qu'il pourrait survivre s'il devait perdre tout ce qu'il possédait. Et le titre du message ce matin, c'est « Le secret pour survivre aux moments difficiles qui surviennent dans notre vie ». Je vous invite, comme je l'ai dit, à tourner à partir des versets 6. Nous allons lire, à partir des versets 23. Nous allons lire à partir des versets 23 à 29. Ce passage parle d'un homme qui a survécu aux nombreuses situations difficiles qu'il a eu à faire face et dont Dieu l'a quand même béni. Cet homme est un exemple pour nous tous aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, moi, j'aimerais pas venir au monde dans l'époque d'aujourd'hui, surtout avec le caractère que j'avais il y a 60 ans, 65 ans. Mais aujourd'hui, on rencontre des jeunes filles. J'ai fait des camps parmi des camps chrétiens, mais surtout avec des enfants non chrétiens, des adolescents non chrétiens. Et j'ai rencontré une jeune fille de 14-15 ans qui, ça faisait déjà 2-3 fois qu'elle se faisait avorter parce que au Québec, on paye le gouvernement rembourse la pilule, mais on doit payer pour l'avortement. On doit payer pour la pilule et le gouvernement rembourse pour l'avortement. Et quand je leur demandais pourquoi elle s'était faite avorter, ben elle disait parce que c'est gratuit, quoi. Mais il y avait quand même des conséquences à long terme dans des actes qu'on vit. Et psychologiquement, il y a des jeunes filles qui ont beaucoup de difficultés par la suite à se relever de ça. Je ne suis pas en train de condamner ceux qui se sont fait avorter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que souvent, les blessures pour nos jeunes sont beaucoup plus profondes rapidement qu'à mon époque, quoi. La drogue, à mon époque, on connaissait pas ça, on n'avait même pas entendu parler jusqu'à ce que les Beatles viennent sur le marché. Et parce que vous savez que c'est les Beatles qui ont commencé avec les Rolling Stones à commercialiser finalement la drogue douce et tout ce qui s'ensuit par après. Mais le monde des années 60 n'était pas facile, le monde n'a jamais été facile, mais on vit dans une situation aujourd'hui où nos jeunes sont agressés de tous les côtés pour finalement démolir, les détruire. Et finalement, quand on leur parle de Dieu, les jeunes, ils n'en ont rien à cirer de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà tellement vécu de choses mauvaises que finalement, ils se disent, si Dieu existait, si Dieu était si bon que ça, pourquoi ça m'est arrivé? Et on sait bien le monde dans lequel on vit, que ce n'est pas le monde que Dieu a voulu, mais c'est le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Et ici, dans Hébreux chapitre 23, on est un homme qui a vécu des choses difficiles. Un homme qui, pourtant, a eu le pouvoir, était placé dans la haute société égyptienne. Il était le fils de la fille du Pharaon. Et Dieu avait un appel pour lui, comme Dieu a un appel pour chacun de vous ce matin dans cette salle. Et on va voir comment Dieu va travailler son cœur, va œuvrer dans sa vie pour l'amener vraiment non pas que ce soit lui qui accomplisse l'œuvre à la place de Dieu, mais que ce soit vraiment Dieu qui prenne toute sa place et qu'il puisse se glorifier à travers l'homme qu'il aura appelé. À partir du verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas de désobéir à l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir du péché pendant quelque temps. Il estima que subir le mépris comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il institua la Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes, afin que l'ange de la mort, c'est-à-dire l'exterminateur, ne tue pas les fils premiers-nés des Israélites. C'est par la foi que les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche, tandis que lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous plongeons nos regards dans ta parole, ta sainte parole, Seigneur, qui est esprit et vérité. Ta parole, Seigneur, qui ne contient aucune erreur parce qu'elle a été inspirée, Seigneur, par toi, par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions ce matin de parler à nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que tu as une parole en réserve pour chaque personne ici présente sans exception. Et Seigneur, nous te demandons non seulement que nos oreilles naturelles soient ouvertes, mais surtout les oreilles de notre cœur puissent être ouvertes, Seigneur, pour entendre ce que tu as à dire à chacun de nous ce matin. Seigneur, merci encore une fois pour l'œuvre que tu vas accomplir. Merci encore une fois pour l'œuvre que tu as déjà accomplie. Et Seigneur, merci aussi pour tes promesses, parce que ce que tu promets, Seigneur, nous savons que tu l'accomplis. Et tout cela, c'est dans le bon nom de Jésus que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. L'une des erreurs qui nous arrive parfois de commettre en examinant la vie des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est de penser que ces hommes et ces femmes étaient des gens extraordinaires, des gens qui avaient des capacités incroyables pour avoir accompli tout ce qu'ils ont fait. Et si c'était le cas, bien, frères et sœurs, ça remettrait en question tous les passages dans la Bible qui mentionnent la façon dont Dieu a agi à travers ces hommes et ces femmes. Ces hommes et ces femmes étaient des gens ordinaires, comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils avaient tous quelque chose en commun qui faisait en sorte qu'ils ont pu tenir le coup, tenir bon, et voir Dieu accomplir des choses extraordinaires à travers eux. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que c'est quelque chose qu'ils avaient en commun a fait en sorte qu'ils ont vécu une vie tout à fait extraordinaire, voire époustouflante. Et ce quelque chose, voilà la bonne nouvelle, ce quelque chose qu'ils avaient en commun, eh bien, il est encore et toujours disponible aujourd'hui pour vous et pour moi. Vous dites « Amen » à ça. Oui. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons tous dire qu'il nous est arrivé de connaître des périodes difficiles dans notre vie. Pour certains, encore plus difficiles, plus marquants, mais tous, la vie ne nous a pas épargnés. Tous, nous avons vécu des moments difficiles et des grands moments de découragement. J'aimerais vous parler ce matin d'un moyen ou d'une clé ou d'un principe qui nous permet, lorsque surviennent ces moments difficiles, de remporter la victoire plutôt que de se retrouver écrasé par celle-ci, peu importe leur nature ou leur gravité. Premièrement, nous pouvons dire que les moments difficiles dans la vie sont inévitables. Tôt ou tard, ils font partie de la vie de tout être humain. Personne ne peut y échapper. Les périodes difficiles sont inévitables. Nous ne pouvons pas y échapper. Il y a deux choses maintenant que j'aimerais dire concernant ces situations difficiles. Il y a premièrement les situations que nous vivons à cause de ce que nous faisons ou à cause de ce que nous avons déjà fait. Et deuxièmement, il y a certaines situations que nous vivons parce qu'elles sont provoquées par Dieu lui-même. Prenons par exemple le cas de Moïse que nous avons sous les yeux. Il a grandi dans la maison de Pharaon pendant une quarantaine d'années, pouvant s'offrir ce qu'un homme de son rang désirait dans la vie. Mais devenu un homme, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Et Dieu avait déjà prédit, à travers Abraham, entre autres, que l'esclavage des Israélites, durerait 400 ans, et qu'il enverrait ensuite un libérateur. Et le moment était maintenant arrivé pour que cette prophétie se réalise. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 14-15, au chapitre 11, il est écrit qu'il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pendant un certain temps du péché. Mais il a fait ce que la plupart d'entre nous, frères et sœurs, faisons. Et, en tout cas, je dirais la plupart d'entre nous faisons qu'il arrive que nous fassions. Et il va commettre une terrible erreur en voulant devancer le plan de Dieu. Il va commencer à vivre des moments difficiles parce qu'il a pensé dans son orgueil démesuré qu'il arriverait par ses propres forces à accomplir ce que seul Dieu peut accomplir. Un jour, Exode, tourne avec moi dans Exode, chapitre 3, on va lire les versets 11 à 15, où je vais aller un peu tresser en diagonale, les versets 11 à 15. Alors, c'est la première partie d'un message. J'avais pensé de faire une partie, mais ça aurait été beaucoup trop long. Donc, on va faire une première partie ce matin et une deuxième partie la semaine prochaine, Dieu voulant. Il est écrit, à Exode chapitre 3, versets 11 à 15, qu'un jour, il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères, hébreu. Il regarda autour de lui et, ne voyant personne, il tua l'Égyptien et enfouit son corps dans le sable. Voyant que l'affaire était connue, parce que l'histoire s'est répandue que Moïse avait tué quelqu'un, il prit peur. Et le pharaon lui-même en a entendu parler et chercha à le faire mourir. Alors, le pharaon qui avait le droit de regard sur toute vie dans son royaume, eh bien, Moïse, le connaissant très, très bien, puisqu'il l'avait fréquenté pendant une quarantaine d'années, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le texte biblique nous dit qu'il quitta alors l'Égypte et alla se réfugier dans le pays de Madian, où pendant 40 longues années, il va travailler comme berger. Quelle descente dans la classe sociale, frères et sœurs! Quelle première leçon! La situation difficile qu'il vivait, ce n'était pas Dieu qui l'avait provoqué, Dieu l'avait permis, mais c'était à cause de ce qu'il avait fait. Il va travailler comme berger, dépouillé de tout ce qui faisait sa force lorsqu'il vivait en Égypte. 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans maintenant à vivre coupé du monde dans le désert, quel changement radical pour lui! Moïse s'était attiré des ennuis parce qu'il avait essayé de faire, par ses propres forces, ce que Dieu allait accomplir de toute façon, de façon miraculeuse. Dieu allait délivrer son peuple, le peuple d'Israël, et en faire une nouvelle nation, non pas en comptant sur un homme qui avait tué un soldat, ni à partir du moment où cet homme l'avait décidé, mais au moment où Dieu, lui, l'avait décidé. Frères et sœurs, l'une des principales raisons pour lesquelles vous et moi, nous vivons souvent des situations difficiles, c'est parce qu'il nous arrive parfois de faire comme Moïse et de devancer le plan prévu par Dieu. Nous voulons ce que nous voulons quand nous le voulons, comme nous le voulons, où nous le voulons, au lieu d'attendre le moment choisi par Dieu, et accepter que cela soit fait selon sa manière à lui de faire. Et nous nous retrouvons alors en difficulté et nous nous demandons comment nous en sommes rendus là. Pourquoi certaines personnes se retrouvent-elles dans de graves difficultés financières, voire même sur le point de déclarer faillite? Elles font partie de cette catégorie des gens qui ne peuvent pas attendre pour posséder cela ou ceci. Elles le veulent maintenant, peu importe qu'ils en aient les moyens ou non. Je ne sais pas si c'est encore la même philosophie de vie aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était voyager maintenant, payer plus tard. Alors, quand vous faites un voyage de 10 000 euros, puis que vous en gagnez 15 000 par année, eh bien, le paiement plus tard, ça fait quand même très longtemps. Hein? Et je pense que c'est le même principe aujourd'hui. Je connais une personne qui s'est mariée, qui a marié un sans-papier. J'ai rien contre les sans-papiers. Hein? Qui a marié un sans-papier, qui a voulu faire une noce grandiose, qui a emprunté 25 000 euros pour son mariage. Et finalement, bien, c'était étalé sur des versements de 5 ans. Et au bout de 3 ans, elle était déjà divorcée. Donc, c'était « mariez-vous maintenant, payez plus tard ». Mais il y a des fois, il y a des gestes irréfléchis que nous faisons qui, finalement, eh bien, sont provoqués parce que nous amènent dans des situations difficiles qui sont provoquées à cause, non pas parce que Dieu le voulu, pas parce que Dieu l'a voulu ou parce que c'est Dieu qui était derrière tout ça, mais parce que nous devons assumer, finalement, nous sommes responsables de nos décisions. Frères et sœurs, il nous arrive que nous plaçons nous-mêmes dans des situations difficiles parce que nous avons voulu en faire à notre tête plutôt que d'obéir à Dieu. Et le pire, il arrive aussi souvent que nous essayons de mettre cela sur le dos d'un autre, voire même sur le dos de Dieu. S'il y a des moments difficiles que nous nous imposons, et il y en a d'autres où c'est Dieu qui nous a placés et qui nous en libérera quand il l'aura décidé. Frères et sœurs, si vous avez une conviction dans votre cœur que je ne sais pas quelle situation vous vivez aujourd'hui, moi, j'ai eu ma part, vous avez eu votre part, ma part n'est pas encore finie, le livre n'est pas encore fermé, je suis toujours en vie. Il y a encore des situations difficiles qui nous attendent. Mais oui, si vous avez une conviction ce matin que si vous vivez une situation difficile, que ce n'est pas votre faute, mais gloire à Dieu, c'est que Dieu est en train de vous former à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et non seulement ça, dans sa grâce, si vous vivez une situation dans laquelle vous en êtes entièrement responsable, Dieu va trouver le moyen aussi de vous enseigner à travers cette situation-là. Il s'agit d'avoir un cœur ouvert, non pas de se voir comme étant une victime d'une situation dans laquelle on vit une souffrance, mais de reconnaître qu'on est coupable, de reconnaître qu'on est responsable à 100% et de laisser la place à Dieu pour travailler dans nos vies. Pensez à Moïse, par exemple, la première fois qu'il a quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte avec la peur au ventre, fuyant des menaces de Pharaon qui cherchait à le tuer. Et la deuxième fois qu'il a quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte comme un homme sûr de lui, à la tête d'un peuple qui deviendrait le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que la deuxième fois, la situation dans la vie de Moïse soit si différente? Eh bien, la première fois, il a agi à sa manière et ça n'a pas marché. Et de plus, ça lui a occasionné de graves problèmes. Pendant 40 longues années, patiemment et silencieusement, Dieu, jour après jour, sous le chaud soleil du désert, va préparer son cœur à répondre à l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Dans Exode chapitre 3, il est écrit qu'un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il aperçut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il voit un buisson qui brûlait, d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson brûle. Il avait déjà vu des buissons en train de brûler dans le passé, mais ce buisson avait quelque chose de particulier, c'est un buisson qui ne se consumait pas. Alors, il décide de faire le tour, Exode chapitre 3, verset 5, vous êtes dans le livre. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et il va découvrir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il va l'appeler au milieu du buisson, il va dire « Moïse, Moïse, n'approche pas ici. Ôte tes sandales, Moïse, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Frères et sœurs, si on croit vraiment que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, le fait que Moïse ait un buisson en face de lui et que Dieu lui dise d'enlever ses sandales, si Dieu est présent partout sur la terre, tout sur la terre est un lieu saint pour le Seigneur. On va voir un peu plus tard dans la deuxième partie pourquoi Dieu lui dit, écoute, hey, Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Parce que tu es directement dans la présence de ton Dieu. Ton Dieu est en train de te parler face à face. Et frères et sœurs, quand on lit la parole ce matin, eh bien, je ne vous demande pas d'enlever vos sandales. Dieu ne nous demande pas d'enlever nos sandales. Mais Dieu nous demande de réaliser qu'on est devant un Dieu saint. Un Dieu qui nous demande de prendre au sérieux sa parole. Parce que quand on commence à lire sa parole, et souvent dans le monde informatique dans lequel on vit, virtuel dans lequel on vit, où on prend notre GSM, on lit la Bible et qu'on ferme notre GSM. Quand on prend les Écritures le matin et qu'on prend le temps pour lire le Seigneur, on doit être conscient qu'on est on est dans la présence de Dieu et que Dieu veut nous parler. C'est pas vite fait, bien fait, Dieu veut nous parler et Dieu veut qu'on prenne du temps pour lui parler. Et ainsi va commencer une conversation entre Dieu et un homme qui n'avait jamais entendu parler Dieu. Ce Dieu se présente à lui comme étant le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage tellement il craignait de regarder Dieu. Dieu lui dit qu'il a un appel pour lui. Il l'envoie trouver Pharaon pour qu'il lui ordonne de laisser partir son peuple. Vous connaissez la suite, Exode chapitre 3, 10, Exode chapitre 12. Moïse va donner à Dieu, vous connaissez la réponse que Moïse va donner à Dieu. Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Il va donner toutes sortes d'excuses à Dieu pour ne pas y aller. Et vous vous souvenez ce que Dieu lui a répondu? Je serai avec toi. Je serai avec toi. Il vivait seul dans le désert depuis 40 longues années, loin de tout ce qui ressemblait à ce qu'il avait vécu auparavant. Il avait perdu l'habitude de fréquenter des gens, ayant passé plus de temps avec les moutons et les chèvres ces 40 dernières années. Il entend Dieu lui dire, « Je veux que tu te rendes voir le Pharaon dans son palais et que tu lui dises ce que moi je vais te dire de dire. Laisse partir mon peuple. » Frères et sœurs, nous parlons ce matin de situations difficiles. Moïse savait que Pharaon avait cherché à le faire tuer 40 ans plus tôt. Vous comprenez un peu mieux pourquoi il cherchait des excuses pour ne pas se rendre en Égypte. Il savait qu'en se présentant devant Pharaon, celui-ci pouvait à tout moment, sur un simple claquement des doigts, ordonner qu'il soit tué. Nous connaissons la suite. À chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, celui-ci refusait de laisser partir son peuple, jusqu'à ce que finalement le Seigneur prenne la vie du propre fils de Pharaon. C'est alors qu'il va laisser les Israélites quitter l'Égypte. Sachant que la distance à partir de l'Égypte pour se rendre en Israël est de 613 kilomètres, si on vous demandait de donner le pourcentage de chances que 3 millions de personnes survivent dans le désert, je ne sais pas quel pourcentage vous donneriez. Quel est-il mangé, premièrement? À quel endroit trouverait-il à boire? Et troisièmement, allait-il seulement pouvoir survivre? Frères et sœurs, je ne suis pas Moïse, mais si j'arrivais et je vous disais, Dieu m'a parlé, je me présente devant vous, où je me présente devant tout ce qu'il y a de chrétiens. En Belgique, ce ne serait pas suffisant pour combler 3 millions, mais la Belgique, la France et peut-être la Hollande. Je vous disais, ben, écoutez, Dieu m'a parlé, et puis vous avez vu les prodiges qu'il a fait. J'arrive pas là comme un illuminé. Hein. Je m'appelle Moïse Hudon et je me présente devant vous et je vous dis, écoutez, voilà, Dieu vous appelle à quitter cet endroit parce qu'il y a un beau pays pour nous. Eh bien, on regarde le pays et on doit traverser un désert qui a 613 kilomètres avant d'arriver à la place ou avant d'arriver, soi-disant, au pays où que Dieu nous réserve. Je ne sais pas si vous prépareriez pas une remorque remplie de nourriture, remplie d'eau, pour dire, on est prêt à te suivre, mais on va quand même amener des bagages. Parce qu'on n'est pas certain de se rendre jusqu'à là-bas. Et si vous parlez de ça aux gens du monde, les gens du monde vont vous traiter de cinglés. Vous imaginez, on l'a pas, le texte biblique ne le dit pas. Parce que c'est le but de l'enseignement, c'est pas de connaître la réaction des gens, puisque Dieu va quand même disposer le cœur des Égyptiens à leur donner des bijoux, à leur donner de l'or, et à être très, très, le texte biblique nous dit avoir un cœur disposé pour leur donner des choses afin qu'ils débarrassent le plancher, quoi. Mais, mes frères et sœurs, vous vous imaginez les chuchotements, les murmures qu'il devait y avoir quand les Égyptiens ont quand même vu partir ces 3 millions de personnes qui n'avaient rien, quoi, qui avaient très peu de nourriture, qui avaient très peu d'eau, en tout cas pas suffisamment pour faire 613 kilomètres sans recevoir l'aide de Dieu. Frères et sœurs, comment Moïse pouvait-il être sûr de lui? Je veux pas tout vous révéler ce matin. La deuxième, je veux garder ça dans la deuxième partie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'introduction au prochain message. Mais frères et sœurs, c'est incroyable l'aventure, c'est incroyable l'appel que Moïse avait reçu, la responsabilité que Moïse avait reçue. Si vous ajoutez à cela que peu de temps après, et ça c'est le texte biblique qui l'a dit, regardez Exode chapitre 14. Tourne avec moi dans Exode chapitre 14. Les versets 8 à 12. Encore une fois, en diagonale. Hein? C'est vrai que le pharaon a réalisé qu'il venait de perdre de la main-d'œuvre à bon marché. Mais regardez ce que le texte biblique nous dit. C'est Dieu qui va inciter les Égyptiens à aller, à poursuivre son peuple. Essayez de comprendre quelque chose là-dedans. Pourquoi Dieu a incité les Égyptiens à poursuivre son peuple? Pourquoi Dieu ne leur a pas fait passer par un passage plus court? Ça, il dit, c'est parce que ce n'est pas des gendarmes, c'est pas des gens qui sont habitués à combattre, et en rencontrant les Philistins, ils risquent de paniquer puis revenir sur nos pas. Mais là, ici, il leur fait prendre une route, et en plus, non seulement il fait prendre une route, mais il sait qu'il n'y a pas d'issue, puisqu'il va les placer carrément face à la mer, et en plus, c'est lui qui incite les Égyptiens à les poursuivre. Pourquoi? Regardez, il est écrit que le pharaon et toute son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Les Israélites eurent très peur et dirent à Moïse, et ça, c'est bien nous, frères et sœurs, ne jugeons pas les Israélites. Regardez ce qu'ils ont dit. N'y avait-il pas des sépultures en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils avaient oublié Dieu, hein? Ils avaient oublié les prodiges que Dieu avait faits, hein? Ils avaient oublié les 10 plaies qui étaient arrivées en Égypte. Ils avaient oublié tous les premiers-nés qui étaient morts en Égypte. Qu'est-ce qu'ils disent? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là, regardez, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Frères et sœurs, des fois vous annoncez l'Évangile à des gens, ils préfèrent continuer à vivre comme des esclaves dans ce monde, plutôt que d'obtenir la liberté qu'ils peuvent recevoir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vivre comme esclaves, ils en ont pris l'habitude. Et ils veulent pas commencer à faire des efforts pour embarquer dans une nouvelle vie que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Et ils disent non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est exactement le contexte ici. On t'avait dit de nous laisser tranquille, Moïse. À plusieurs reprises, on te l'a dit. On s'était habitué à notre vie d'esclave, on était bien. Les Égyptiens, ben, ils abusaient de nos filles, c'est pas grave, on était habitués. On mangeait pas des steaks à tous les jours, mais on était habitués. On se lavait pas tous les jours, mais on était habitués. On vivait sous des tentes, on vivait pas dans des maisons, mais on était habitués. Ben, vous entendez ça dehors, hein? Vous entendez ça des gens de l'extérieur, souvent. Pourquoi je changerais? Pourquoi? Et il y a combien de gens qui sont habitués à boire, à prendre de la drogue, à fumer? Et quand vous leur dites, vous leur parlez de Jésus-Christ, c'est bizarre, hein? Ouais, mais tu dois pas t'amuser, toi, tu bois pas, tu fumes pas. C'est peut-être plate ta vie, toi. Vous avez dit ça ici, plate, non? Ben, c'est pas. Au Québec, ça veut dire, c'est pas. Ça doit pas être grand-chose, ta vie, hein? De t'ennuyer à mourir, toi. Tu fumes pas, tu bois pas. Tu regardes pas telle sorte de film. Tu couches pas à gauche et à droite. Mais ça doit être long, ta vie, toi. Mais moi, je suis habitué à cette vie-là et moi, je veux pas y renoncer. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les Israélites. Les frères et sœurs, on est de la même race. Et heureusement qu'on a un Dieu qui est patient. Heureusement qu'on a un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui sait comment il va nous briser. Et heureusement qu'il ne nous brise pas tout de suite, mais qu'il nous arrache des petits morceaux à la fois, qu'il nous épluche un petit morceau à la fois pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Quelle patience Jésus avait quand il est venu sur la terre. On rejette Moïse ici. On a rejeté le Fils plusieurs siècles plus tard. Quelle patience Dieu avait. Quelle patience! Et Moïse, Exode chapitre 14, versets 13 et 14, va leur répondre d'une manière tout à fait renversante. Ne craignez rien. Il ne dit pas sauvez-vous, dépêchez-vous. Ne craignez rien. Restez en place. Et on va voir la semaine prochaine, le mot rester en place, ça veut dire demeurez ferme, tenez bon, restez sur place. Et regardez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui même. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il faut avoir du culot pour dire ça, hein? Il n'y a rien encore qui s'est passé, là. Les Égyptiens ne sont pas encore arrivés auprès des Israélites. On les voit de loin dans la poussière, qu'ils déplacent à travers leur armée et les chars, mais ils ne sont pas encore. Comment Moïse peut-il dire avec certitude, prononcer de telles paroles avec certitude? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous n'aurez pas à intervenir. Ça a pris 40 ans à Moïse pour comprendre cette leçon, que c'était pas lui qui devait intervenir dans l'œuvre que Dieu voulait faire avec les Israélites, mais que c'était Dieu, le Tout-Puissant, qui allait intervenir à travers lui. Frères et sœurs, ça nous prend du temps en tant que chrétiens, en tant que responsables souvent, de comprendre que l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, le ministère à laquelle Dieu nous appelle, eh bien, c'est qu'il veut nous utiliser, et qu'il veut nous utiliser, mais c'est lui qui va intervenir. C'est lui qui va faire progresser le ministère. L'homme n'a rien à voir dans la progression d'un ministère. Au contraire, quand un ministère regresse, c'est parce qu'il n'a pas laissé la place à Dieu pour travailler, pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Et Moïse ici a compris. Ça, c'est quelque chose qu'il a compris. Et Bob Gass, que vous connaissez, raconte que lorsque nous traversons une situation difficile, si nous ne voyons pas de solution immédiate, notre réaction première, c'est souvent de nous enfuir, d'échapper à tout prix, d'essayer quelque chose, n'importe quoi, pour nous en sortir. Alors que Dieu dit de rester sur place, de tenir ferme et de prier. Nous aimons les miracles, mais à condition de ne pas nous retrouver dans une situation qui nécessite un miracle. Imaginez que vous ne pouvez pas vous enfuir, que votre seul moyen pour vous sauver, c'est par la mer. Le problème ici, c'est que vous n'avez pas de bateau pour faire la traversée. Vous aimeriez que Dieu intervienne et trouve une solution, mais Dieu attend. L'ennemi approche, vous entendez ses pas, vous criez à Dieu de vous sauver, mais Dieu attend. Si vous restez sur place, c'est parce que vous n'avez pas d'autre choix. Dieu a un sens de l'humour, n'est-ce pas? Il dit aux Israélites de rester sur place, de tenir bon, de rester ferme, de ne pas se décourager. Mais où pouvaient-ils aller se cacher? Ils étaient des cibles faciles. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient aucun rocher pour se cacher. Ils n'avaient aucun rocher derrière lequel ils pouvaient aller se cacher. Aucune forêt où ils pouvaient se réfugier. Frères et sœurs, si Dieu nous place parfois dans des situations difficiles, voire même intenables, c'est pour nous obliger à nous tourner vers lui et à lui faire confiance quand il n'y a plus d'autre espoir. La prière devient donc notre seule option possible. Si nous prions, il va intervenir en notre faveur, pas une seconde avant et pas une seconde après. Vous pensez que c'est arrivé uniquement à Moïse? Je vous invite à lire la vie de George Miller. George Miller, il avait 1200 orphelins à nourrir dans son orphelinat. Il n'a jamais demandé un centime à personne. Le seul centime qu'il demandait, ou tous les centimes qu'il demandait, c'était à Dieu. Et une nuit et un soir, je ne sais pas ce qui est arrivé à l'orphelinat, mais l'équipe de la cuisine s'est réunie avec George Miller pour lui dire qu'il n'y avait pas de nourriture pour nourrir les orphelins le lendemain matin. Et il paniquait. Pas évident d'avoir la responsabilité de 1200 orphelins sur le dos. Et George Miller, qui lui voyait le Dieu d'invisible, a dit, on va prier. À chaque jour suffit sa peine. On a eu aujourd'hui ce qu'on avait besoin. Demain, c'est un autre jour. Il n'est pas encore minuit. Demain, c'est un autre jour. On va prier. Le lendemain matin, il y a un laitier qui est passé avec son cheval. Et pas une calèche, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Hein? On transportait le lait. Et comme par miracle, il y a sa charrette qui est cassée. Et vu qu'il n'y avait pas de frigo à ce moment-là, c'était pas des camions remorques réfrigérés, eh bien, il savait qu'il perdrait son lait. Et il est tombé en panne juste devant l'orphelinat. Il est allé frapper. Il a dit, est-ce que vous voulez avoir mon lait? Il dit, sinon, moi, je vais le perdre. Et ce lait-là, ça a pourvu pour le déjeuner des enfants. Quelques instants après, il y a un boulanger qui est arrivé avec 400 pains et qui a dit, écoutez, demandez-moi pas pourquoi. Je suis pas chrétien. Mais il y a une voix qui me réveillait à minuit, m'a dit, écoute, tu te couches pas, tu fais des pains toute la nuit, tu vas aller livrer ça à tel orphelinat. Et ils ont eu leur déjeuner. Frères et sœurs, si Dieu était capable de s'occuper de 3 millions d'Israélites, il est quand même capable de s'occuper de votre seule petite personne, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'est plus difficile pour Dieu de s'occuper de votre petite personne que de 3 millions d'Israélites? Pensez-vous que c'est plus difficile pour Dieu de s'occuper de la personne de Jacques Hudon que des 3 millions d'Israélites? Si Dieu a su briser les 3 millions d'Israélites, à combien plus forte raison il va être capable de briser Jacques Hudon? À combien il va être capable de vous briser vous? Et tant aussi longtemps que vous allez résister à Dieu, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas dans la joie, vous ne serez pas dans la paix. Parce que ça fait partie d'une voie divine. Si tu marches dans mes voies, c'est la joie, la paix, la plénitude. Si tu fais à ta tête, tu vas te retrouver comme Moïse, tu vas te sentir très seul pendant de longues années. Moïse a vécu des moments difficiles partout où il s'est déplacé avec le peuple. Et devant le Pharaon, ce fut difficile, et avec son peuple, ce fut aussi difficile. Et le seul recours qu'il avait, c'était la prière. Mais alors, pourquoi était-il si là? Il était là parce que c'est Dieu qui l'avait décidé. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Vous pensez que vous êtes venu comme ça, même si vous êtes venu par habitude, même si au lieu d'aller sur la batte, vous êtes venu ici un matin, ben c'est pas vraiment un choix que vous avez fait, c'est Dieu quand même à travers votre choix qui vous a invité à venir dans ce lieu ce matin. Frères et sœurs, nous n'apprécions pas ces périodes où nous vivons des moments difficiles. Permettez-moi de vous poser une question, la question suivante. Si au moment où je vous parle, vous vivez une situation difficile, est-ce que cette situation a été provoquée à cause de quelque chose que vous avez fait? Ou est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui l'a décidé? Et ça, pour une raison bien précise, mais que vous ne connaissez pas encore. Nous vivons tous des situations difficiles dans nos vies. Lorsque Jacob rencontra le Pharaon et qu'il lui demanda son âge, écoutez bien ce qu'il lui a dit. « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. » Personne n'est épargné de connaître des années difficiles. Personne n'est épargné de vivre des moments difficiles. Et je pense que les années difficiles auxquelles il faisait référence, c'est toutes ces années où il a pensé que Joseph était décédé. Et aussi toutes les années où ses fils l'ont fait suer, quoi, à vivre comme les gens du monde. Frères et sœurs, les périodes difficiles sont inévitables, peu importe les raisons pour lesquelles elles apparaissent dans nos vies. Nous sommes tous appelés à être confrontés. Et le secret, c'est de savoir comment nous allons réagir. Par conséquent, non seulement ces périodes difficiles sont inévitables, mais deuxièmement, et je vais aller très vite pour le deuxième point, c'est que les périodes difficiles vont soit vous faire progresser, ou soit vous faire régresser, voire même vous détruire. Elles vont nous faire progresser, elles vont nous détruire, dépendant de la façon dont nous allons réagir. Si vous pensez à certains personnages de la Bible et à la manière dont ils ont répondu dans les situations difficiles, vous verrez que deux personnes ont vécu à peu près une situation similaire, que le premier en est sorti fortifié et grandi, tandis que le deuxième s'est écroulé en portant la même charge. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux dans la façon dont ils ont répondu face à cette difficulté? Prenez le cas de l'apôtre Paul. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 25 à 28, pour ceux qui ont leur Bible. Avant même qu'il arrive dans une ville où, dès qu'il était arrivé, les Juifs l'attendaient déjà pour la persécuter. Je ne suis pas encore en train de lire. Tout son ministère, tout le ministère de l'apôtre Paul fut un champ de bataille. Il a vécu cette situation tout au long de sa vie. Regardez ce qu'il dit maintenant. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 1 fois, on a voulu me tuer en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 24 heures dans l'eau. Et il y a le reste que je ne dis pas là. Frères et sœurs, engagez-vous, dit le Seigneur. Mais vous allez vivre vos propres difficultés. Vous allez vivre les difficultés que le Seigneur connaît. Mais le Seigneur est avec vous, comme il sera avec Moïse, comme il était avec Josué, comme il était avec Abraham, comme il était avec Gédéon, comme il avait été avec tous ceux qui nous ont précédés. Et pourtant, regardez, on vient de lire toutes les difficultés qu'il a vécues, et j'en ai laissé quelques-unes. Et pourtant, dans Philippiens chapitre 3, verset 13 et verset 14, il pouvait dire ceci, « Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, mais je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Et le prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse avait les yeux fixés sur le Dieu invisible. La Bible nous dit dans Hébreux sur la récompense future. La récompense future, c'est la restauration de toutes choses. Cette vieille carcasse qui nous fait souffrir, qui nous affaiblit plus on vieillit, ça sera terminé. Elle appartient à ce monde. Les gens se font faire des liftings de toutes sortes, mais ça appartient à ce monde. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de lifting, il n'y aura pas de... C'est un renouvellement total, c'est un corps comme Adam et Ève avaient au moment de la création. Un corps qui ne vieillit plus, un corps qui ne sera pas affecté par le péché ni par la maladie. Extraordinaire, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez la biographie des grands serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, et ceux à travers qui Dieu a manifesté sa présence avec puissance, sont ceux qui ont traversé des situations extrêmement dans leur vie et dans leur ministère. Ils ont vécu beaucoup de déceptions, beaucoup de chagrins, ils ont subi beaucoup de critiques, mais au final, comment sont-ils sortis? Ils sont sortis grandis de toutes ces situations. Des gens ordinaires qui avaient compris que le secret pour survivre aux périodes difficiles de la vie, c'était de garder ses yeux fixés sur Dieu. Vous savez, Dieu utilise toutes sortes de moyens, je vais vous en raconter un. Bon, vous n'avez pas lu dans sa biographie, mais John Wesley raconte que, en fait, celui qui a écrit la biographie, le pasteur qui a écrit la biographie de John Wesley, raconte que John Wesley avait beaucoup de discernement, sauf pour se marier. Il n'a jamais été capable de choisir en tout cas, les critères qu'il a choisis pour choisir sa femme, c'est épouvantable. Et il a marié une ancienne sœur, et une ancienne sœur qui avait abandonné les ordres, et cette sœur, elle était extrêmement jalouse. Une vieille célibataire, il s'est marié assez vieux, une vieille célibataire, et quand je dis vieille, ça, ici c'est quoi une vieille célibataire, en haut de 30 ans? Ça dépend d'où on est, hein. Au Québec, on fête la Sainte-Catherine pour ça, hein, chez nous, donc, voilà, je ne veux pas blesser personne. Alors, elle était extrêmement jalouse, et quand il partait pour évangéliser, elle ouvrait tout son courrier, et elle interprétait vous savez, quand vous êtes très, très jaloux, vous interprétez non pas ce qui est lit, vous ne lisez pas ce qui est écrit, mais vous interprétez ce qui n'a pas été écrit, hein. Et là, les lettres commencent à être grosses. Hein. Et quand il rentrait, lui, exténué de son voyage, eh bien, elle le prenait par les cheveux, elle le tirait à terre, elle le traînait dans une autre pièce. Et lui, eh bien, il avait compris que s'il restait là plus que 2 semaines, eh bien, il vivrait par terre et non pas debout. Eh bien, il repartait pour 1 an évangéliser. C'est un moyen que Dieu utilisait pour dire, « Hey, t'as pas le temps de te reposer, John, tu pars, tu vas évangéliser. » Mais il y a une chose de certaine, par contre, elle a payé sa méchanceté parce qu'elle est morte très, 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 très tôt après le mariage. Mais tout ça, c'est pour vous montrer qu'on se dit, mais fais-tu pitié? Mais s'il y avait une femme accueillante, une femme qui le prendrait de près tout le temps, il y aurait peut-être eu des problèmes à choisir entre l'appel de Dieu et entre sa femme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger nos femmes, négliger nos maris, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lui avait un appel bien particulier. Il faut quand même penser que c'est à travers lui que Dieu a épargné l'Angleterre d'une révolution comme la France. Parce que John Wesley et Voltaire se sont rencontrés, se sont croisés sur les bateaux, hein. Voltaire est allé en Angleterre, il a vu la situation, il a dit ce que ça prend pour la France, c'est l'humanisme. Wesley, qui parlait français, est allé en France, et lui, il a dit ce que ça prend pour sauver l'Angleterre, c'est l'Évangile. Et on voit la différence entre les deux pays. Ouais. Moïse était un de ces hommes, un homme ordinaire, plein d'orgueil, égoïste, arrogant et rebelle. vis-à-vis de Dieu, voulant que tout se déroule à sa façon. Dieu va le dépouiller de tout ce dont il pouvait dépendre pour l'amener au point où la seule chose qui lui reste à faire, c'est de dépendre de Dieu. Et frère, c'est vraiment ça pourquoi Dieu permet des choses difficiles dans nos vies. Il nous apprend à dépendre de Dieu. Un des pièges dans nos vies, c'est d'avoir des comptes de banque bien garnis. Parce que de ce côté-là, on n'a pas besoin de dépendre de Dieu. On n'a pas besoin de prier pour qu'il pourvoie nos besoins, puisqu'on a tout ce dont nous avons besoin. Et ça fait en sorte qu'il est très difficile, après, d'enseigner à nos enfants de dépendre de Dieu. Mais vous savez, l'argent, il n'y a rien de plus instable que l'argent. Il y a une compagnie en fin de semaine qui a perdu 1 milliard dans son compte de banque. Facebook a perdu 13 milliards il y a 3 semaines. 13 milliards d'euros à la bourse. L'argent, c'est volatile. Si la bourse s'effondre aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas des millions dans votre compte parce que ça ne vaudrait plus rien. C'est des coupons que ça va prendre, c'est ça. Les coupons vont valoir plus que l'argent. L'argent, ça ne vaut rien. Alors, la même situation, pardon. Frères et sœurs, la seule chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est sur un Dieu qui est en contrôle de toutes choses, qui nous aime de façon démesurée et dont la fidélité ne nous fera jamais défaut. Vous ne pouvez pas être en meilleure position dans la vie que de n'avoir rien d'autre que lui. Vous êtes amen à ça ce matin? Oui. Il élève certains, il en abaisse d'autres. Tout dépend de leur réponse, exactement ce qu'il a fait avec Pharaon. Dans le psaume 84, 13, le psalmiste dit, « L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et David disait à son époque, dans le psaume 86, verset 11, « Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumise à ton autorité. » Et quand on dit que Dieu a trouvé en David un cœur selon son cœur, c'est exactement ça. Et il n'y a pas juste en David que Dieu veut trouver un cœur selon son cœur. Dieu veut retrouver un cœur selon son cœur à travers chacun de ses enfants. Il y a des gens qui réagissent de la bonne façon, mais vous en avez d'autres qui laissent paraître leur mauvaise humeur, leur amertume et leur haine envers Dieu lorsqu'ils se retrouvent dans certaines situations difficiles. Ils sont arrogants, l'orgueil leur sort par les oreilles. Vous les entendez blasphémer contre Dieu parce qu'ils sont devenus dépendants de l'alcool ou de la drogue ou parce qu'ils ne peuvent s'empêcher de vivre dans le péché, détruisant ainsi non seulement leur vie, mais la vie des autres, en répandant souvent le poids de leur amertume et de leur haine autour d'eux. Lorsque vous les regardez, vous vous dites, quel gâchis. Vous vous demandez ce qu'ils ont bien pu vivre dans leur vie pour l'avoir détruite à ce point. Je peux vous fournir une explication. La même situation qui les a apparemment détruits a permis à d'autres de se relever et de sortir non seulement grandis, fortifiés devant le Seigneur, mais de devenir la lumière et le sel là où Dieu les a placés. Chers amis, comment réagissez-vous lorsque vous traversez des moments difficiles? Connaissez-vous le secret pour survivre lorsque tout semble s'effondrer autour de vous et que vous ne voyez pas beaucoup d'indices qui vous laissent voir que Dieu est présent et qu'il y a déjà la solution à votre problème? Comment réagissez-vous? Quel est le secret pour sortir fortifié et non pas abattu de cette situation? Regardez ce qui est écrit au verset 27 dans Hébreux chapitre 11. Pardon. J'avais oublié de dire dans l'annonce, pendant que vous tournez, dans l'annonce de ce matin, que l'école du dimanche reprend la semaine prochaine en principe. Donc, les enfants sont patients ce matin. Surtout qu'il y avait la Sainte-Sainte, ça rajoute un peu plus long. On va se dépêcher, on termine. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Sans avoir peur de la colère du roi. La première fois, il fuit parce qu'il avait peur de la colère du roi. Ici, il quitte l'Égypte une deuxième fois, il n'a pas peur de la colère du roi. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Il demeura ferme, il tient bon, comme s'il voyait le Dieu invisible. Voilà tout ce qui fait la différence dans la vie de quelqu'un. Moïse voyait ce que les autres ne voyaient pas. Maintenant, on va terminer par un petit exemple. Tournez avec moi dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, et je vous promets qu'on termine avec ça. On va lire à partir du verset 8. Frères et sœurs, ce matin, peu importe la situation que vous vivez soit avec des yeux de la foi ou des yeux purement humains. Et si vous vivez avec des yeux purement humains, bien, peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous avez peur. Vous êtes découragé. Vous paniquez. Vous êtes apeuré. Bon, on a un exemple ici de quelqu'un, un enfant de Dieu, qui vit, lui, comme Moïse, avec les yeux de la foi. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. C'est ce que le texte nous invite à faire, vivre avec les yeux de la foi. Regardez ce qui est écrit. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8.
À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers pour leur dire où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, « Fais attention, évite de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. » C'est intéressant, c'est Dieu qui parlait directement dans les oreilles, qui disait, « regarde ce que le roi de Syrie vient de dire, il va attaquer mon peuple, donc informe maintenant les officiers. » Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer? » L'un des officiers lui répondit, « Il n'y a pas de traître parmi nous, majesté. » Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta propre chambre à coucher. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats. Moi, ça me fait rire parce qu'il s'en va arrêter un bonhomme. Regardez l'équipement qui s'en va là-bas. Des chars, des chevaux, une troupe de soldats pour arrêter un bonhomme qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Le serviteur, il le voit avec ses yeux purement humains. « Malheur, maître! » dit-il. « Qu'allons-nous faire? » Élisée, « N'aie pas peur. Ceux qui se trouvent avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Est-ce que tu vois ce que je vois? » Ensuite, il pria en ces termes, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Ma prière ce matin, frères et sœurs, c'est que tout au long de cette année liturgique, Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir lui ce qu'il voit, pour que nous puissions voir la situation que les gens vivent dans le monde, pour que nous puissions aller les trouver et leur partager l'Évangile de Jésus-Christ. Que nous puissions voir jusqu'à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir servir un grand Dieu qui n'a pas besoin de nous et qui, malgré nos défauts, malgré nos chutes, eh bien, veut continuer à nous utiliser pour sa propre gloire. Regardez, on continue rapidement. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Et le mot étincelant, c'est un mot qui est caractéristique du livre de l'Apocalypse. De chars étincelants. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète et Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Il n'a pas dit, « Veux-tu, Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Nous, on demande que le Seigneur nous ouvre les yeux. Bien, il leur a bouché les yeux, ils sont partis dans une autre direction, ils ont atterri dans une autre ville, et Élisée et son serviteur ont été sauvés. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire avec Élisée, il veut le faire avec vous. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que cette armée d'anges qui était dans le ciel et que Élisée a vu avec les yeux de la foi, est-ce que vous pensez que cette armée d'anges n'est pas disponible pour nous? Hébreux chapitre 1, verset 11. Les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour venir en aide à ceux qui doivent hériter du salut. Mais on ne voit pas. On voit avec nos yeux humains. On est dans une génération qui nous a habitués comme ça. Un monde scientifique, ça prend des preuves. Et le Seigneur nous appelle à vivre avec les yeux de la foi. Ce que les autres ne voient pas, nous, on le voit et on peut leur transmettre pour les réconforter, pour leur dire, t'es jamais tout seul. Si tu penses que Dieu n'est pas là, il y a une armée d'anges qui te protège. Et si Dieu veut qu'il te touche, c'est pour te faire grandir, pas pour te détruire. Voilà tout ce qui fait la différence dans la vie de quelqu'un. Moïse voyait ce que les autres ne voient pas. Élisée voyait ce que les autres ne voient pas. Et surtout, Jésus voyait ce que les autres n'avaient pas. Et c'est pour ça qu'il était capable de se rendre sur la croix et de mourir pour vous, de mourir pour moi. C'est pour ça qu'il, parce qu'il voyait ce que nous ne nous voyons pas, il était capable de dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et aujourd'hui, devant la paresse du peuple de Dieu, dans cette génération, c'est la même prière que le Seigneur fait aujourd'hui. Père, pardonne à mon Église, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle perd son temps à suivre des choses qu'elle voit, plutôt qu'à fixer ses yeux sur le monde invisible, sur ce que tu leur réserves pour l'éternité. Et frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous accuser, je fais partie du groupe. Et combien de temps on perd devant nos ordi, qu'on perd devant nos TV, qu'on perd devant le foot, qu'on perd le temps qu'on perd à la télévision, frères et sœurs. Du temps qu'on ne pourra plus jamais, jamais racheter. Jamais. Les seules choses qui vont rester, c'est tout ce qui touche le spirituel. C'est ce qui va transcender la terre et c'est ce que, encore une fois, Apocalypse, eh bien, c'est ce que l'Apocalypse nous dit. Quand le chrétien meurt, ses œuvres qu'il a accomplies sur la terre le suivent. Frères et sœurs, ces œuvres qui vont transcender, c'est ce qu'on a amené à Christ. Hein? Parce que c'est ceux qui sont nés de nouveau qui vont transcender. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui vont rester pour l'éternité. Frères et sœurs, que nous puissions prier pour que Dieu puisse nous montrer ce que le monde ne voit pas, mais sur lequel Moïse avait les yeux fixés. Il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Nous avons une espérance vivante, celui de la résurrection. C'est là le premier principe qui nous permet d'affronter toutes les situations difficiles auxquelles nous aurons à faire face dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment tout au long de cette semaine. Et je vous invite à terminer ce culte par un chant, le cantique 159 dans « À toi la gloire ».